VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Média d'accord, 13h à Bangui, bienvenue à notre journal. On commence par l'Afrique de l'Ouest. Au Nigeria, le groupe rebelle des Vengeurs du Delta du Niger a revendiqué aujourd'hui une nouvelle attaque contre des infrastructures pétrolières dans le sud du pays, malgré les appels à l'unité lancés par Abuja. Les Vengeurs exigent le départ du pays des compagnies pétrolières étrangères de cette région méridionale déshéritée malgré les revenus du pétrole. Ils revendiquent aussi l'autodétermination de la région du Delta. Le président nigérian Muhammadu Buhari a exhorté les rebelles hier à donner une chance au Nigeria en ces temps de difficultés économiques. Mais il a aussi souligné son opposition à toute partition de la fédération nigériane. Au Sénégal, plus d'enfants mendiants dans les rues. Ainsi en a décidé le chef de l'État, Macky Sall. Le président sénégalais a annoncé la mesure hier après la grande prière de l'Idd el-Fitr, marquant la fin du Ramadan. Le point avec Eddy Issango.
Le chef de l'État du Sénégal a déclaré avoir donné des instructions très fermes au gouvernement pour mettre un terme à ce qu'il qualifie d'image insoutenable d'enfants abandonnés dans la rue. M. Sall a menacé des sanctions, ce qui pousse ses mineurs à quémander. Une étude gouvernementale réalisée en 2014 estime à plus de 30 000 les nombres de ces enfants talibés à Dakar. Beaucoup sont originaires des pays voisins. Ils sont généralement confiés à des maîtres coraniques à la tête des Dahara, école coranique en langue wolof. Leurs maîtres les font vivre dans la précarité, les exploitent en les forçant à mendier et à rapporter des quotas journaliers d'argent et des denrées sous peine d'être battus, selon divers témoignages. Le président Sall a appelé tous les pays à se mobiliser contre la mendicité des enfants, affirmant que ce n'était pas une question religieuse, puisque les vrais Dahara qui enseignent ne laissent pas leurs talibés traîner jour et nuit dans les rues. Cela n'a rien à voir avec l'islam, a martelé Macky Sall. Une mesure similaire avait déjà été prise par Abdoulaye Wade en 2010 sans porter de fruits.
En RCA, l'Aïd el-Fitr, la fin du Ramadan, n'a pas été seulement l'occasion de célébration entre musulmans. À Bangui, en dehors de la cérémonie organisée à la grande mosquée du PK5, plus d'une centaine de musulmans ont fait la fête avec les non-musulmans du 6e arrondissement. Une première depuis le déclenchement des affrontements intercommunautaires en 2013. Les messages de paix ont été relayés par les participants à cette célébration œcuménique. Écoutons Saint-Cyr Ouaté, le président de la jeunesse du 6e arrondissement de la capitale centrafricaine.
La mosquée est égale à l'église. L'église est un lieu sacré. Donc aujourd'hui, dès que la fête de Ramadan a eu lieu dans cette mosquée, encore délabrée, mais c'est déjà un endroit sacré. C'est pourquoi j'invite la jeunesse, non mais non plus de jeux dans la mosquée, que la devanture de la mosquée ne soit plus l'endroit de décharge des ordures. Que nos frères musulmans viennent le matin pour faire leur prière habituelle, même le vendredi également pour leur prière.
Saint-Cyr Ouaté, président de la jeunesse du 6e arrondissement de Bangui. Au Kenya, des milliers de Kenyans ont manifesté hier dans tout le pays contre les exécutions extrajudiciaires. Des manifestations qui ont lieu quelques jours après la découverte des corps d'un avocat, de son client et d'un troisième homme porté disparu depuis le 23 juin. Les précisions de Félix Yepasis Zembro.
Les corps de Maître Willy Kimani, de son client Josepha Mwenda, un conducteur de moto-taxi, ainsi que de Joseph Mouirouri, un taximan, ont été repêchés vendredi d'une rivière. Le rapport d'autopsie note que les trois hommes ont été torturés à mort. Plusieurs policiers ont été arrêtés en rapport avec cette affaire. Mercredi, des centaines d'avocats ont convergé sur le quartier général de la police kenyane à Nairobi pour dénoncer le laxisme des autorités. Des Kenyans en colère ont incendié un commissariat de police, un acte dénoncé par l'inspecteur général de la police kenyane qui s'est toutefois engagé à traduire en justice les auteurs du meurtre des trois hommes. Selon une ONG locale, le Kenya a connu 520 exécutions extrajudiciaires depuis 2013. Le gouvernement kenyan a entrepris de soumettre des milliers de policiers à une enquête de moralité dans l'espoir d'améliorer l'image bien ternie de la police nationale.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Génocide de 1994 au Rwanda, la justice française a condamné à la réclusion à perpétuité mercredi à Paris deux anciens bourgmestres rwandais accusés d'avoir participé au massacre. Ce jugement intervient après de nombreuses condamnations prononcées dans le monde entier pour des faits liés à cette tragédie. Le rôle de la France a été très critiqué lors du génocide. Pour une réaction de Kigali, Eric Manirakiza a joint dans la capitale rwandaise le secrétaire exécutif de la Commission nationale de lutte contre le génocide, le docteur Jean Damasen Bizimana.
C'est une réaction de joie et en même temps une réaction de justice parce que ces deux messieurs ont abusé de leurs fonctions. Ils étaient maires, c'est-à-dire qu'ils étaient bourgmestres. Ils étaient détenteurs d'autorité. Ils ont eu un rôle de participation et d'organisation des massacres et du génocide dans la commune qu'ils dirigeaient. Ils se sont attribués le rôle d'organisation des massacres et en même temps de fourniture d'armes et d'organisation des miliciens, puisqu'ils se sont aussi du Rwanda en espérant bénéficier d'un asile aisé et pacifique en France. Et il est très important qu'ils soient reconnus coupables d'organisation et de planification du génocide, même en dehors du Rwanda. Deuxième élément, c'est pour les victimes rescapées, ils attendaient que cette justice-là soit rendue. Donc c'est très important que ce procès soit fait, et d'autant plus que ça se fait dans un pays comme la France qui, dans les années passées, n'avait pas franchi ce pas de faire des procès, de parvenir aussi à des sanctions et à des jugements exemplaires, comme ce fut le cas.
Pour vous, est-ce un dossier qui ramène la confiance entre la justice rwandaise et la justice française?
C'est plutôt un procès qui concerne des individus qui sont reconnus coupables. Et nous souhaitons que, évidemment, la justice française poursuive ce pas. L'année dernière, au mois d'octobre, la BNCCA a bénéficié d'un non-lieu, alors que l'UNICEFA, c'était le grand criminel que nous connaissons ici dans le pays, qui a un rôle de dar au génocide, mais a collaboré avec l'ancien préfet de Kigali, le colonel Tarcisse Nzaro, dans la planification du génocide auprès de Sainte Famille et du centre pastoral Saint-Paul. Et il y avait des preuves évidentes que le tribunal pénal international pour le Rwanda avait réuni. Mais malgré tout, la justice française a écarté les poursuites contre Tshombonyeshyaka. N'oublions pas cela. Et n'oublions pas non plus qu'il y a d'autres criminels, comme le colonel Serubuga, comme Stanislas Mbonamika et autres, qui sont en France. Les médecins Guamoutio Eugène, comme Sostène Mouniemana, qui ont commis le génocide à Boutaré, qui ne sont pas poursuivis, et bien d'autres criminels. Mais nous souhaitons que d'autres dossiers puissent aussi parvenir au résultat au même chemin.
Jean Damasen Bizimana à Kigali. Rappelons qu'en mars 2014, la Cour d'assises de Paris avait déjà condamné le Rwandais Pascal Simbikwanga, ancien capitaine de la garde présidentielle rwandaise, à 25 ans de réclusion criminelle pour son rôle dans le génocide de 1994. En Libye, 11 soldats libyens des forces spéciales ont été tués hier soir dans un attentat à la voiture piégée à Benghazi, dans l'est du pays. C'est ce qu'ont indiqué aujourd'hui des sources militaires. Ces forces qui combattent les groupes islamistes dans la deuxième ville du pays et dans l'est libyen sont sous le commandement du général controversé Khalifa Haftar. Ce dernier s'oppose toujours à l'autorité du gouvernement libyen d'Union nationale, soutenu par l'ONU, installé depuis fin mars à Tripoli, et il est resté loyal aux autorités parallèles qui siègent dans l'est du pays. Actualité aux États-Unis maintenant, confrontée à des réactions indignées émanant des quatre coins du pays, les autorités américaines ont lancé mercredi une enquête fédérale sur l'homicide par balle en Louisiane de vendeurs ambulants noirs. Les précisions de Nathalie Barge.
Le principal organe chargé de l'enquête sera la division des droits civiques du ministère de la Justice, assistée du bureau du procureur de la Louisiane et du FBI, a annoncé John Bel Edwards, gouverneur de la Louisiane. La Maison-Blanche a proposé son aide, a indiqué Kip Holden, le maire de Baton Rouge, la ville où Alton Sterling vendait des CD sur un parking. À l'arrivée des policiers, Sterling était armé et l'altercation qui a suivi s'est conclue par la perte de sa vie, a déclaré Carl Dabadi, le chef de la police locale. Il s'exprimait après une conférence de presse des membres de la famille de M. Sterling qui ont demandé que justice soit faite. L'un des enfants a éclaté en sanglots tandis que sa mère, Kenyetta McMillan, parlait au micro. « J'appelle quiconque avec assez de courage dans cette ville à aller arrêter ces deux agents. Si le système est le même pour tous, il doit l'être aussi pour eux », a déclaré Mme McMillan.
Et pour terminer, les États-Unis ont imposé hier leur première sanction individuelle contre le leader nord-coréen Kim Jong-un pour de graves violations des droits de l'homme allant d'exécutions extrajudiciaires à des actes de torture. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.